Alors, dans ce catéchisme sur la Sainte Communion, on va commencer un peu par de l'histoire sainte. Eucharistie. Le terme grec Eucharistia qui signifie d'abord reconnaissance, puis action de grâce. Bénédiction s'enrichit dans la littérature chrétienne dès les tout premiers siècles du sens plus précis que nous donnons aujourd'hui à sa transcription française. L'Eucharistie s'entend en effet soit de la célébration, messe dans le rite latin, du sacrement institué par le Christ à la scène, soit du corps et du sang du Christ sous les espèces du pain et du vin consacrés et offerts en sacrifice au cours de cette célébration, puis distribué aux chrétiens pour nourriture spirituelle. Donc, où c'est la messe elle-même, où c'est le fruit de la messe, la Sainte Hostie, que nous recevons, le mot Eucharistie. Quatre textes du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et la première épître aux Corinthiens, rapporte le fait historique de l'institution même de l'Eucharistie, le Jeudi Saint. Les deux premiers le font en termes à peu près identiques, qui les apparentent de très près. Une certaine dépendance dans leur apport lie peut-être aussi les deux autres. Quoi qu'il en soit, loin d'apparaître contradictoire, les quatre relations se complètent. Ayant réuni ses apôtres en vue du repas rituel de la Pâque, à la veille de sa Passion, Jésus se trouva à table au milieu d'eux. D'un pain qu'il rompt et distribue, il dit « Ceci est mon corps ». Et d'une coupe qu'il invite à partager, « Ceci est mon sang ». Parole que rien ne permet d'interpréter comme simple image. La tradition chrétienne les entend bien comme affirmation de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et l'obligation faite aux chrétiens de participer au festin eucharistique est claire. Prenez et mangez, buvez-en tous. Tel est bien l'accomplissement du mystère du pain de vie annoncé par Jésus dans la synagogue de Capharnaüm et dont témoigne l'évangile de Saint Jean. Chapitre 6. Le discours sur le pain de vie. La chair du Fils de l'homme et son sang sont vraie nourriture et vrai breuvage, moyen sûr de l'intime union des disciples au maître et promesse, gage de la vie éternelle. Faites ceci en mémoire de moi. L'invitation à l'un et l'autre n'est évidemment pas limitée aux seuls convives de la dernière scène. Puisque les hommes de tous les temps sont appelés par l'enseignement évangélique à cette union, au Christ, et donc au partage de sa vie glorieuse dans l'éternité, l'offre d'une participation à ce même repas eucharistique devait être perpétuée à l'usage de tous. Faites ceci en mémoire de moi, dit en effet Jésus à ses apôtres, chargés de poursuivre sa mission à travers les siècles, jusqu'au jour où il reviendra pour établir à jamais ses fidèles avec lui dans le royaume de Dieu. Seul saint Luc, dans son évangile, et saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, atteste le propos de manière formelle. Ils explicitent ce que supposent les textes de saint Matthieu et de saint Marc. Les douze reçoivent pour eux-mêmes et pour leurs successeurs l'ordre et le pouvoir de faire du pain et du vin le corps et le sang du Christ ainsi proposés à toutes les générations. Ils ont été consacrés prêtres, évêques, à la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi, il les ordonne prêtres. Les termes employés par Jésus et le moment par lui choisi pour cette première Eucharistie, avec quoi toutes les célébrations ultérieures ne font qu'un, la lie d'évidence à l'unique sacrifice de la Nouvelle Alliance, celui de l'homme-Dieu sur la croix, offrant son corps et son sang, sa vie, pour le salut de l'humanité à laquelle il appartient et dont il est le chef. C'est le sacrifice non sanglant par rapport au sacrifice sanglant, mais c'est un seul et unique sacrifice. Non sanglant parce qu'on ne voit pas le sang, mais c'est le même sacrifice que le Vendredi Saint qui lui est sanglant. En rapprochant le sacrifice du Golgotha et le repas eucharistique qui scelle cette nouvelle alliance, des sacrifices et du festin sacré par quoi Moïse fit célébrer la conclusion de l'ancienne au Sinaï, les exégètes soulignent la continuité de l'histoire du salut dans la tradition judéo-chrétienne et la recherche des préfigurations de l'Eucharistie dans l'Ancien Testament, telles l'offrande de pain et de vin faite par Melchisédek, Exode chapitre 24 et Épître aux Hébreux chapitre 9, ou mieux confirmé, la manne et le rocher, source d'eau vive, qui assure la subsistance du peuple de Dieu au désert. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 10, par rapport à Exode chapitre 16 et les Nombres chapitre 20, le livre des Nombres chapitre 20. Mais la vertu propre à sa nature divine de pain descendu du ciel, offrande sacrificielle de la loi évangélique, se trouve hautement proclamée. Ceux qui ont mangé le pain de l'ancienne alliance sont morts. Qui mangera de ce pain nouveau vivra à jamais. Ainsi, les chrétiens ont-ils un autel dont les desservants de la tente, sanctuaire mosaïque, mais tente de peau, n'est-ce pas, mais qui recouvrait qui faisait une demeure pour l'Arche d'Alliance, n'ont pas le droit de se nourrir. Oui. Autel eucharistique ou autel du sacrifice de la croix, confondu en un seul, l'un perpétuant l'autre. Vous voyez, les sacrifices de l'ancienne alliance étaient réservés certains sacrifices étaient réservés aux prêtres. Là, tout le monde peut recevoir cette victime et s'unir à cette victime. Primitivement nommée fraction du pain en raison du geste rituel emprunté par Jésus lui-même aux coutumes du judaïsme, c'est pas emprunté, c'est la vie liturgique juive qui devient chrétienne. L'Eucharistie s'imposa bien sûr dès les origines comme la célébration par excellence du culte chrétien. Vous voyez, on commençait la messe le samedi soir par des veillées de prière jusqu'au point du jour où on célébrait l'Eucharistie, parce que on assimilait à la fois le sacrifice et la résurrection. Et donc c'était au dimanche matin qu'on célébrait la Sainte Messe et qu'on communiait. Mais on faisait une veillée de prière le samedi soir. La participation à la coupe de bénédiction et au pain unique n'est-elle pas à la fois communion au sang et au corps du Christ et communion à son Église, qui forme par lui et avec lui un seul corps? À l'accomplissement du rite, les disciples d'Emmaüs reconnaissent le Christ ressuscité. Alors, est-ce que c'était une messe au sens propre? Non. Le Christ fait cette coupe le pain et les disciples d'Emmaüs reconnaissent ce geste. Mais pour qu'il y ait messe, il faut qu'il y ait aussi le vin. Le pain et le vin qui sont transsubstantiés, parce que ça doit signifier le sacrifice. Il ne peut pas y avoir que l'hostie. S'il n'y a consécration que de l'hostie, il n'y a pas de sacrifice. Il y a présence de notre Seigneur, par contre, parce qu'il est vivant et ressuscité. Donc, si le prêtre dit « ceci est mon corps » et s'il a un malaise, il tombe, eh ben le Christ est présent sur l'autel. Et il faut continuer la messe en consacrant le vin. Mais il ne faut pas les deux consécrations pour qu'il y ait la présence réelle. Notre Seigneur est tout de suite là, dans la Sainte Hostie, avec son corps, son sang son âme et sa divinité. Mais il faut, pour qu'il y ait le signe du sacrifice, qu'il y ait ce qui est solide d'un côté et ce qui est liquide de l'autre. Ce qui est ce qui signifie de manière première et principale le corps et ce qui signifie de manière première et principale le sang. Mais Jésus est tout entier. Vous voyez, quand vous avez des personnes, ça va faire sourire, qui sont avec, paraît-il, que le blé actuellement est plein de gluten, et qui sont allergiques au gluten, eh bien, ils peuvent communier au précieux sang. Vous voyez? Et ils peuvent signaler avant la messe, et donc on prendra un petit calice, et on le fera communier au précieux sang. De nos jours, on fait communier au précieux sang. Alors quand on fait communier au précieux sang, plusieurs personnes à la même coupe, vous voyez, comme dit les rubriques, il peut y avoir un certain dégoût, hein, donc on peut faire autrement. Comme par exemple par intinction. C'est-à-dire que vous prenez, le prêtre prend l'hostie, la trempe dans le précieux sang et la donne. Alors il y a des risques que des gouttes du précieux sang tombent. C'est pour ça que cette manière de communion n'a jamais été conservée. Elle réapparaît actuellement, mais elle est dangereuse et il faut un plateau, il faut nécessairement un plateau. Et puis ça crève le cœur de voir une goutte du précieux sang tomber sur le plateau. Hein. Oui.
Le Shabbat juif, le vendredi soir, il y a la bénédiction du pain et la bénédiction du vin.
Oui. Oui, mais c'est l'action de grâce pour la nourriture et qui préfigurait justement la messe. Hein, mais...
Il y a la bénédiction d'allumer les bougies aussi.
Tout à fait.
La forme de la messe, on doit faire.
Mm-hmm. Et donc, en Orient, pour qu'on communie au signe en entier, on met les hosties, mais qui est du pain levé, dans le précieux sang. Et donc vous communiez à du pain imprégné du précieux sang, de vin aux yeux. Voyez. Mais c'est pour signifier la résurrection et signifier l'union des deux signes. Mais comme ce n'est pas du tout pratique, les latins ont préféré uniquement l'hostie, puisque le Christ est entièrement présent dans les deux apparences. Donc il n'a pas besoin. Par contre, le prêtre, lui, doit communier à la fois à l'hostie et à la fois au précieux sang, parce qu'il doit consommer la victime et s'unir à cette victime. Ne faire plus qu'un avec cette victime. Et il doit être configuré au Christ, non seulement dans la consécration, mais aussi dans la consommation de l'hostie, et être un avec le Christ, et doit le signifier en prenant les deux apparences, qui signifie la mort du Christ, puisqu'il, quand on perd tout son sang, on meurt. Et donc c'est à la fois un sacrifice et à la fois une participation à la résurrection. Et suivant les spiritualités, ou vous insistez sur le sacrifice, ou vous insistez sur la communion au Christ vivant. D'où les querelles liturgiques de nos jours. Eh bien, les orthodoxes restent, comme je vous l'ai dit. Les orientaux, qu'ils soient orthodoxes ou catholiques, ont exactement les mêmes rites. C'est une querelle d'autorité. De ne pas reconnaître l'autorité du successeur de Pierre, et du coup d'avoir des difficultés, non seulement dans la procession du Saint-Esprit, du Père et du Fils, mais aussi dans l'autorité dogmatique d'un seul, pour l'unité de la foi, et du coup dans le mariage, puisqu'ils admettent le divorce à deux reprises, on peut se marier trois fois, et les théologiens orthodoxes ne savent pas exactement, se mettent pas d'accord pour savoir si le lien est rompu, si on est polygame, ou s'il y a un vrai divorce, ou si le lien persiste, ou si le lien est rompu. Et alors pourquoi trois fois? Mais parce qu'en général, les pères de l'Église disaient qu'on ne pouvait se marier que trois fois après veuvage. Parce qu'ils disaient que si on se marie une fois, c'est une on concède ça à la faiblesse humaine, parce qu'on ne peut pas se consacrer à la vie religieuse. Bing. Ensuite, si on est veuf, et si on marie une deuxième fois, alors là, c'est vraiment qu'on est très très faible. On n'arrive pas à avoir une vie spirituelle suffisamment intense pour à nouveau rester dans la prière et la consécration à Dieu. Et si on est veuf une deuxième fois, se marier une troisième fois, alors là, c'est, on le tolère tout juste. C'est un scandale. Voilà. Non, alors une quatrième fois, n'en parlons pas, c'est, voilà. Mais on a des textes de pères de l'Église qui sont très sévères là-dessus. Eh bien, c'est un reste de cela qui fait qu'on peut se marier, entre guillemets, trois fois chez les orthodoxes. Alors, bien sûr, c'est très vexant pour eux quand on dit ça. Voilà. Pardon? Ben, il y a une dispute sur la manière dont l'Esprit Saint vient à nous.
Oui. Donc c'est aussi...
Voilà, mais là je ne vais pas le faire ce soir. Non, hein. Mais c'est... Et ensuite, ça, comme l'Immaculée Conception de la Vierge Marie n'est pas enseignée chez les orthodoxes, certains la croient, d'autres pensent que la Vierge Marie est née avec le péché originel et qu'elle a été purifiée à l'Annonciation. Donc, c'est très confus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autorité doctrinale centrale, c'est tout. Or, c'est une grâce particulière, vous voyez. Parce que, quelles que soient les confusions doctrinales ou morales que nous subissons à travers les siècles, jamais l'Esprit Saint, justement, ne permettra à l'Église catholique d'enseigner l'erreur. Quitte à ce qu'un pape soit que des cardinaux se réunissent pour élire un nouveau pape pendant le pape régnant qui serait convaincu d'erreur pour que le nouveau pape dise que le précédent pape ne l'est plus. C'est ce qu'on appelle un schisme. Mais un schisme pour une cause doctrinale peut exister. Les théologiens disent c'est possible, c'est jamais arrivé. Mais par exemple, si un pape dit « Jésus n'est pas Dieu », bon, très simple, les cardinaux qui résistent à cette apostasie se réunissent, à cette hérésie, ils se réunissent, ils choisissent un nouveau pape, et le nouveau pape dit « Celui-ci n'est plus pape, il est déposé parce qu'il est hérétique ». Pour l'instant, ça s'est pas passé. Voilà. Donc, en ce qui concerne le dogme de la présence réelle, eh bien, chez les orientaux, on a préféré du pain levé plutôt que du pain azim, du pain qui n'a pas fermenté. Alors, justement, du coup, il y a des orthodoxes qui reprochent aux latins d'utiliser du pain azim. Tout ça, c'est des querelles byzantines. C'est libre. Et il ne faut pas être, comme je dis de régulièrement, il ne faut pas être jaloux du prêtre qui consomme la victime entièrement dans ses signes extérieurs. Vous recevez Jésus tout entier. Hein, c'est pas... Voilà. Alors bien sûr, il y a une certaine gourmandise spirituelle à se dire, mais est-ce que je pourrais quand même le précieux sang, ça remet le précieux sang, ça. Et quand bien même ça serait le contenu, le goût qui reste, puisque c'est la substance profonde de la matière qui est changée, pas ses apparences extérieures. C'est comme lorsqu'on a trouvé justement un ciboire avec des hosties un an et demi après le tremblement de terre et que ces hosties n'ont pas bougé. Alors on essaye d'étudier, on va étudier sans doute, on va prendre ces mêmes hosties venant du même couvent ou de la même fabrication et on va les mettre un an et demi dans le même ciboire des hosties non consacrées qu'on va de la même fabrication pour voir si c'est un phénomène simplement de dessèchement ou autre. Hein. Mais on va quand même essayer de voir si c'est pas miraculeux le fait qu'il n'y ait eu aucune aucune corruption, aucune humidité, rien. Enfin, il n'y a, y a, y a pas eu. Les hosties n'ont pas bougé. Les actes ne mentionnent le renouvellement, probablement quotidien, dans toute la première communauté chrétienne de Jérusalem. Il va de soi que les églises fondées par les missionnaires de l'Évangile l'adoptent d'emblée. Un autre passage du même livre des Actes signale par exemple l'assemblée des chrétiens de Troas réunie autour de Paul pour rompre le pain au premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Les sévères recommandations de l'apôtre encore aux Corinthiens sur l'ordonnance des repas du Seigneur, puisque à l'issue de ces messes, il y avait des les gens mangeaient ensemble. Vous voyez, mais parfois on mangeait avant aussi. Enfin, c'était tellement convivial qu'à la fin l'aspect repas de l'Eucharistie prenait le pas sur la présence sacrée et mystique du Christ. Et donc du coup, saint Paul reproche en disant, si vous voulez manger entre vous, eh ben mangez chez vous, mais dans nos réunions, on reçoit le pain venu du ciel. Et donc, s'il y a repas, il faut qu'il soit postérieur. Et n'humiliez pas en apportant des victuailles, des bonnes victuailles, ceux qui peuvent pas apporter grand chose. Mais cela témoigne d'un usage bien établi, mais distingue vigoureusement la célébration de l'Eucharistie des agapes fraternelles où se sont introduits de graves abus. Enfin, les termes mêmes de saint Paul, proclament sans équivoque la foi apostolique en la divine présence eucharistique. Qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il est bien évident que c'est pas parce que c'est un pain sacré, c'est le corps du Seigneur. Comme de nos jours, on a vécu plusieurs siècles et plusieurs décennies de négation de la présence réelle, et du coup, si vous voulez, dès qu'on prononce le mot pain, qui n'avait aucune ambiguïté auparavant, on est un peu allergique. C'est l'apparence qui reste, mais c'est le pain vivant. Mais dès qu'on prononce le mot pain de nos jours, comme on veut défendre la présence réelle, ça nous énerve un peu. Enfin, voilà. Alors, si on prend un catéchisme très simple et comparé, voilà, c'est agrafé à l'envers. Voilà. Ça vous permettra de faire des exercices. Donc ici, je reprends des questions du catéchisme de 1857, 66, 78, 90, 1927, 1908, 1985 et 1947, qui est le catéchisme des églises de France, de l'Église de France, du chanoine Quinet. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? Nous disaient les catéchismes anciens. L'Eucharistie est un sacrement qui contient réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces ou apparences du pain et du vin. En 1866, il y avait une petite variante qui contient réellement et en vérité. L'ange qui a parlé aussi à la petite religieuse japonaise d'Akita, du petit village d'Akita au Japon, a fait rajouter à la prière que récitait la communauté, qui était une communauté d'adoration eucharistique, présent dans l'hostie, et l'ange avait dit, rajouter présent réellement dans l'hostie. Version de 47, l'Eucharistie est un sacrement qui contient réellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. Quel jour notre Seigneur a-t-il institué le sacrement de l'Eucharistie? Notre Seigneur a institué le sacrement de l'Eucharistie le jeudi saint, la veille de sa mort. Identique. Comment notre Seigneur a-t-il institué le sacrement de l'Eucharistie? Pour instituer le sacrement de l'Eucharistie, notre Seigneur prit du pain, le bénit, et le donna à ses apôtres en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite le calice où il y avait du vin et dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Je passe sur les petites variantes. Quel miracle Jésus-Christ fit-il par ses paroles? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Par ses paroles, Jésus-Christ fit le plus grand de tous les miracles. Car il changea le pain en son corps et le vin en son sang. Pourquoi notre Seigneur ajouta-t-il ces paroles? Faites ceci en mémoire de moi. Notre Seigneur ajouta ces paroles. Faites ceci en mémoire de moi pour donner aux apôtres, aux évêques et aux prêtres le pouvoir de changer comme lui le pain en son corps et le vin en son sang. C'est le sacrement de l'ordre. Quand se fait le changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ? Le changement du pain et du vin au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ se fait au saint sacrifice de la messe, lorsqu'au moment de la consécration, le prêtre prononce les paroles même de Jésus-Christ. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Cet admirable changement s'opère par la vertu toute puissante des paroles de Jésus-Christ que le prêtre prononce en son nom au saint sacrifice de la messe. C'était une précision du catéchisme de 1888. Ce changement s'appelle transsubstantiation, c'est-à-dire changement d'une substance en une autre substance. Qu'y a-t-il sur l'autel avant la consécration? Avant la consécration, il n'y a sur l'autel que du pain et du vin. Après la consécration, reste-t-il encore sur l'autel du pain et du vin? Non. Après la consécration, il ne reste plus sur l'autel ni pain ni vin, il n'en reste que les espèces ou apparences. Pour la petite précision, le prêtre a l'intention permanente de consacrer ce qu'il y a sur le linge carré, qu'on appelle le corporal. Donc il faut pas qu'il ait l'intention de consacrer tel ciboire ou tel ciboire. Il dit tout ce qui est du pain sur ce corporal est consacré. Tout ce qui est du vin sur ce corporal est consacré. Donc par coutume, les ciboires sont de telle ou telle forme, ont un couvercle ou pas de couvercle. Et par respect, on met un couvercle sur un ciboire pour que les hosties soient protégées de chutes de choses ou de mouches ou des choses comme ça. Pour le précieux sang, on met aussi un morceau de tissu qui empêche des choses de tomber dans le calice ou des mouches de venir. C'est ce qu'on appelle la palle, ce linge. Ce linge un peu rigide pour être posé sur le haut du calice. Mais si le prêtre, par exemple, ne retire pas le couvercle du ciboire, la matière du pain est sur le corporal. Parfois on oublie de retirer le couvercle du ciboire, mais les hosties sont quand même consacrées. Le métal n'empêche pas le Saint-Esprit de changer la substance du pain, oui. Parce que l'intention permanente du prêtre est de consacrer tout ce qu'il y a sur le corporal. Alors imaginez la confusion, mais de toute façon c'est la crise, hein, donc. Quand vous avez des ciboires qui sont en dehors du corporal, qui sont sur l'autel, il est bien évident qu'un prêtre qui connaît pas les règles particulièrement a l'intention de consacrer tout ce qui est à consacrer sur l'autel. Par contre, si vous avez des ciboires en dehors de l'autel, et ça, ils sont certainement pas consacrés. Mais un prêtre qui a des notions traditionnelles, par contre, si le ciboire est en dehors du corporal, il n'est pas consacré. C'est du pain, ça reste du pain. Même s'il est sur l'autel, il faut que les ciboires soient sur le corporal.
Quand il y a beaucoup de monde,
oui.
D'autres aussi sont apportés,
qui ont été déjà consacrés et qui sont dans un tabernacle. Mais on ne les prend pas de la sacristie pour compléter. Là, il y a des prêtres qui font ça actuellement. Il y en a de moins en moins, mais il y en a.
Au pèlerinage de Chartres, où il y a des milliers de personnes, et les ciboires ne sont pas sur l'autel.
Si, si.
Pas sur le linge, en tout cas.
Mais parce qu'ils ont été consacrés avant par des messes privées.
Ben, on peut avoir des doutes, des fois. Enfin, je sais pas.
Ah, pas, dans, pas au pèlerinage de tradition.
Quand le pape est venu à...
Ah, pas au pèlerinage de tradition. Vous êtes en train de parler de quel pèlerinage?
Non, mais je pensais aussi... Parce que j'avais pas communié, j'avais eu un doute quand le pape est venu aux Invalides. Là.
Ah ben le pape a l'intention de consacrer tout ce qui...
Ils ont apporté des tas de calices qui venaient de ciboires qui venaient de je ne sais où. Et...
Ah mais les consécrations se sont faites dans les mains des prêtres. Les prêtres avaient des ciboires avec des hosties dedans et le pape ou un évêque à l'intention de consacrer tout ce qui doit être consacré. Donc là, c'est en dehors du corporal. C'est évident. Par exemple, à Saint-Pierre de Rome, pendant tout le règne de Benoît XVI, il avait restreint la concélébration à 3 cardinaux de chaque côté. Donc, les prêtres qui assistaient à la messe de Benoît XVI ne concélébraient pas. Ils étaient en soutane sur pli. Mais on prenait 20 prêtres d'un côté, 20 prêtres de l'autre, qui avaient des ciboires et qui portaient les ciboires de chaque côté de l'autel pour, après la consécration et pour la communion, partir donner la communion dans toute la basilique. Mais ils étaient des autels humains. Ils avaient... Mais le pape, si vous voulez, ça, voulait consacrer tout ce qui devait l'être dans le cœur de la basilique Saint-Pierre. Donc, si vous voulez, c'est pas traditionnel, mais c'est valide. Oui. Ce qui est traditionnel, c'est de consacrer uniquement ce qu'il y a sur le corporal. Et quand vous mettrez pas un immense corporal, si vous avez énormément de monde pour communier, la tradition de l'Église, c'était de mettre, de préparer de nombreux ciboires consacrés par des messes privé de prêtres avant. Oui. Donc on allait chercher dans une grande réserve eucharistique à Saint-Pierre de Rome, il y a un immense tabernacle où on pouvait mettre 10 ciboires. Oui. Mais on faisait attention de pas au moment de la messe de ne pas consacrer trop de ciboires sur l'autel pour l'unicité, vous voyez, du signe. Faut pas qu'il y ait trop de ciboires. Oui. Parce qu'à la fin, ça devient une boulangerie. Voyez. Donc, c'est pour la dignité. Voyez. Et on allait chercher le Saint-Sacrement à ce moment-là ailleurs, pour pas que l'autel soit rempli de ciboires. Si vous voulez, de nos jours, on voit de tout. L'important, c'est que ça soit fait avec dignité. Voilà.